Histoire Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Élections en Afrique du Sud. Les Sud-Africains votent aujourd'hui dans le cadre des élections législatives et régionales ou l'ANC. Le Congrès national africain au pouvoir depuis 1994 est donné gagnant. Tous les sondages donnent l'ANC grand favori de ces scrutins avec au moins 50% des suffrages, ce qui lui permettrait de conserver la majorité absolue des sièges au Parlement et de maintenir le président Cyril Ramaphosa à la tête du pays. Le point avec notre correspondante en Afrique du Sud, Patricia Huon.
Le vote se déroule depuis 7 heures ce matin. 26 millions d'électeurs sud-africains sont appelés aux urnes aujourd'hui, mais malgré des queues ici et là à Johannesburg, il ne semble pas y avoir d'affluence massive. C'est pourtant un scrutin important pour l'Afrique du Sud, d'abord parce qu'il se tient un quart de siècle après les premières élections multiraciales de 1994, et puis parce qu'il fait office de test pour l'ANC, le parti au pouvoir. L'image de l'ancien mouvement de la lutte anti-apartheid a été profondément endommagée. Les scandales de corruption, l'incapacité du gouvernement à redresser l'économie ont érodé la confiance de la population et le vote pour l'ANC, élection après élection. Mené par le nouveau président Cyril Ramaphosa, le parti devrait néanmoins conserver sa majorité au Parlement. Il sera néanmoins intéressant de voir quelle majorité obtiendra le parti. À ce sujet, les sondages divergent. Certains le placent à peine plus de 50%, d'autres à plus de 60%. Or, de cette majorité dépendra en grande partie la marge de manœuvre de Cyril Ramaphosa. Patricia Huon, Johannesburg, VOA Afrique.
Ebola en République démocratique du Congo maintenant. La mort d'un conducteur de taxi-moto après collision avec un véhicule d'une équipe de lutte contre la fièvre hémorragique a paralysé mardi les activités commerciales et sanitaires à Butembo, grande agglomération de la province du Nord Kivu dans l'est du pays. Les détails avec Morgane Guiriek.
Selon le docteur Chrysostome Chaco de l'hôpital Matanda à Butembo, une jeep de l'équipe de riposte contre Ebola a percuté accidentellement un motard qui a été tué sur place. Et ses camarades ont jeté des pierres sur l'hôpital lorsqu'ils ramenaient le corps à la morgue. Toutes les activités dans la ville ont été paralysées à cause de cet accident. Le médecin estime que ces incidents vont impacter négativement les activités de riposte. Il craint que les équipes de lutte contre Ebola ne deviennent la cible d'attaque des conducteurs de taxi-moto. Cela fait 3 jours consécutifs que les activités de lutte contre Ebola se déroulent au ralenti à cause de l'insécurité. D'ailleurs, un médecin camerounais de l'OMS a été abattu le 20 avril alors qu'il participait à une réunion dans un hôpital. Le ministre congolais de la Santé, le docteur Oli Lunga, a prévenu que chaque fois qu'il y a perturbation, il faudra s'attendre à une flambée du nombre de cas et du nombre de décès. Selon le dernier bilan, l'épidémie déclarée le 1er août dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri a fait au total 1045 morts.
Soudan du Sud, le président sud-soudanais Salva Kiir a estimé ce mercredi trop court le délai supplémentaire de 6 mois accordé vendredi dernier aux belligérants pour former un gouvernement d'union nationale censé mettre fin à près de 6 ans de guerre dans le pays. Ce délai doit notamment permettre de procéder au cantonnement des combattants et à leur intégration dans une armée unifiée. Un des points clés du dernier accord de paix sud-soudanais signé en septembre 2018 à Addis Abeba en Éthiopie. Soudan, les leaders du mouvement de contestation ont accusé ce mercredi le conseil militaire au pouvoir de chercher à retarder le transfert de leur autorité aux civils. Mardi, les généraux ont déclaré qu'ils étaient d'accord avec la plupart des propositions de l'ALC, l'Alliance pour la Liberté et le Changement, mais qu'ils avaient beaucoup de réserves sur d'autres. Le Conseil militaire a soulevé notamment la question de la charia, la loi islamique, en estimant qu'elle devait rester la source de toute législation dans le pays. Réaction de l'ALC, la réponse du Conseil militaire va dans le sens d'une prolongation des négociations et non vers une transition rapide, ont souligné les leaders du mouvement de contestation. Afrique de l'Ouest maintenant, en Guinée-Bissau, deuxième jour de la grève de 3 jours menée par les fonctionnaires et les enseignants pour réclamer le paiement d'arriérés de salaire. Les précisions d'Abdourahmane Dia.
Le palais du gouvernement, qui abrite une douzaine de ministères, est resté ouvert, mais le bureau était vide mardi en l'absence des fonctionnaires. Les écoles sont restées fermées. Les grèves dans l'enseignement ont été quasiment ininterrompues depuis la rentrée de septembre, à l'exception d'une timide reprise en mars-avril. Avec cette nouvelle grève, il n'y aura plus moyen d'éviter une année blanche, a confié le président de l'Association nationale des parents d'élèves, Papalon Dim. Le mot d'ordre de grève a été lancé par l'Union nationale des travailleurs et l'intersyndicale qui regroupe une centaine de petites organisations. Comment imaginer que les agents de l'État travaillent 30 jours pour ne pas être payés à la fin du mois, se demande le président de l'UNTG, Julio Mendonça, en dénonçant le respect d'accords antérieurs par le gouvernement. Cette grève intervient alors que les nouveaux députés ne parviennent toujours pas à s'entendre pour élire un bureau de l'Assemblée nationale, condition préalable à la composition du gouvernement.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest toujours, au Nigeria, mobilisation autour de la question de la migration illégale qui affecte un grand nombre de Nigérians. L'archevêque d'Abuja, le cardinal John Onaikekan, veut mener une action de plaidoyer afin de contribuer à réduire le phénomène migratoire. En collaboration avec l'Agence nationale de lutte contre le trafic d'êtres humains, le prélat organise cette semaine des journées de réflexion pour tenter de trouver une solution au départ des jeunes Nigérians. Reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Il ne fait plus de doute que la migration illégale est devenue une crise internationale. Pour le cas particulier du Nigeria, elle a pris de l'ampleur ces dernières années. L'archevêque d'Abuja s'est dit préoccupé par les effets de la migration sur le Nigeria, le cardinal John Onaikan.
Il y a toute une conglomération de raisons et de causes. On pourrait pointer premièrement sur les causes économiques. Les gens, ils disent qu'ils vont pour chercher un environnement meilleur pour leur vie, particulièrement les jeunes, avec l'idée, malheureusement, presque souvent pas vrai, qu'une fois qu'on arrive en Europe, on devient riche.
Plusieurs centaines de Nigériens ont été expulsés de Libye ces derniers mois et de nombreux autres sont morts dans des circonstances douteuses. Une situation qui inquiète l'opinion nationale. Onuya Benedict a 30 ans et originaire de l'état du Delta dans le sud pétrolifère. Le Delta est l'un des états les plus affectés par le départ des jeunes.
Nous allons saisir cette opportunité. Ils vont nous renseigner sur les conséquences des phases de la migration illégale et comment ça nous affecte négativement. Et nous allons trouver des moyens pour mettre fin à cette pratique et ne plus jamais essayer de nous lancer dans la migration illégale. Nous allons aussi informer nos amis et leur demander d'éviter la migration illégale.
Problème, personne ne semble accepter la responsabilité des raisons qui lancent des centaines de jeunes Nigériens dans une aventure qui finissent souvent dans le désespoir. On dit que certains parents en zone rurale vendent leur terrain pour permettre à leurs enfants d'aller en Europe. Okorodudu est mère de famille.
C'est vraiment triste pour une maman de voir des enfants en train d'être trafiqués et de vivre toutes ces difficultés pour pouvoir bénéficier d'une vie meilleure. Mais la faute n'est pas à eux seuls. Que fait notre gouvernement ?
Des véritables réseaux constitués organisent et encadrent le départ des migrants illégaux au Nigeria et dans de nombreux cas le trafic d'êtres humains. Depuis un peu plus d'un an, le Nigeria, avec l'assistance de l'OIM, l'Office international des migrations, affrète des avions pour faciliter le retour des Nigériens émigrés et en situation de détresse. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Actualité hors d'Afrique pour terminer, conflit en Syrie, plus de 150 000 personnes ont fui en une semaine des secteurs tenus par les djihadistes dans les provinces d'Idleb et de Hama, dans le nord-ouest du pays. Les forces du président Bachar al-Assad et de son allié russe ont intensifié leurs frappes dans ces régions. Le point avec Irine Herman Umbo.
Hier, 13 civils ont été tués dans des raids aériens du régime ou de son allié russe contre des villages de la province d'Idleb ou celle voisine de Hama. Dominée par Trayat Tahrir al-Sham, l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda, la province d'Idleb est le dernier bastion djihadiste à échapper au pouvoir après plus de 8 ans de conflit. La moitié de ces quelque 3 millions d'habitants sont des déplacés. En une semaine, plus de 152 000 femmes, enfants et hommes ont été déplacés, selon David Swatson du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Selon OCHA, ces raids ont mis hors service 12 hôpitaux et 10 écoles depuis fin avril. Le président français Emmanuel Macron a exprimé son extrême préoccupation et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réclamé une désescalade urgente. La Syrie est déchirée depuis 2011 par une guerre qui a fait plus de 370 000 morts et laissé des régions entières en ruine.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.